Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Tentative du coup d'État en mai dernier à Kinshasa. 37 prévenus condamnés à mort, dont 3 Américains. C'est le verdict rendu hier par le tribunal militaire. Les avocats de la défense expriment leur regret pour omettre de faire appel contre ce verdict. Par ailleurs, ouverture hier à Kinshasa du procès d'instruction sur la mort d'un élève et blessure d'un autre à l'école Sévigné de Limété. Ouverture également d'une audience foraine à Kanyaruchinya dans le Nord Kivu. Ici, ça concerne le meurtre d'un élève et blessure des deux autres par des présumés Wazalendo. L'invité de ce matin, Rex Thomas, expert en démobilisation à la coordination nationale du PDDRCS. Il nous parle de sa récente mission à Bunia, où il a pris part à l'atelier sur le recrutement et l'utilisation des enfants par les groupes armés. À tous et à toutes, bonjour. Le verdict est tombé au procès de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai dernier à Kinshasa. Sur 51 prévenus, 37 écopent de la peine capitale et 14 sont acquittés. Le tribunal militaire a prononcé la sentence à son audience publique d'hier à la prison militaire de Ndolo. Parmi les condamnés, il y a tous les 6 étrangers, dont 3 Américains, 3 Congolais naturalisés canadiens, britanniques et belges. En l'occurrence, l'expert militaire Jean-Jacques Wondo, ce dernier est considéré par le tribunal comme le concepteur et auteur intellectuel du coup. Et parmi les acquittés, le tribunal renvoie des fins de poursuite tous les personnels de l'hôtel chez Momo Auberge 19 et Faustin Iguake, responsable de l'agence de transport qu'avaient utilisé les prévenus ainsi que les personnels de l'agence. Les avocats de la défense expriment leur regret quant aux infractions retenues contre leurs clients avec la peine capitale qu'ils considèrent comme étant abolie par la Constitution. Ils promettent de faire appel contre ce verdict. On écoute l'un d'eux, maître Richard Bondo, joint par Jeff Ngoy.
Je suis au regret de noter que le jugement rendu cet après-midi a décrété une condamnation à une peine abolie par la Constitution. Lorsque l'on dit que non, parce que l'article 5 du Code pénal parle de la peine de mort, parmi les peines retenues en droit congolais, il y a la peine de mort et que on ne peut pas dire que ça a été aboli parce que il y a eu un moratoire. Le moratoire a arrêté, c'est simplement l'exécution. On n'exécute pas, mais on condamne. Alors moi, je réponds que non, parce que le moratoire était décrété avant 2006 et la Constitution de 2006 a dit qu'on ne peut pas déroger au droit à la vie. Les infractions retenues sont certes dans le code pénal, mais leur peine a été abolie, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de peine capitale. Et comme les infractions sont là, il faudrait que le législateur vote la nouvelle punition.
Justice toujours, ouverture hier à Kinshasa du procès d'instruction en rapport avec la mort d'un élève et la blessure d'un autre le mercredi à l'école Madame de Sévigné à Limété. L'instruction a eu lieu à huis clos hier au tribunal pour enfants de Kinshasa Matete. Le procès reprend le vendredi 20 septembre prochain. Par ailleurs, au Nord Kivu, la justice militaire a ouvert hier une audience foraine à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo. C'est contre les 3 présumés Wazalendo accusés du meurtre d'un élève de 7e année et blessures infligées à 2 autres lors d'une fusillade mercredi à l'Institut Mugara. Les concernés, Bakambwe Bosco, Bahati Twagira, Julien et Bioniki David, devraient incessamment être fixés sur leur sort. Thierry Gassisiro, rapporteur de la société civile du territoire de Nyiragongo, s'est réjoui de l'ouverture du dit procès en flagrance et plaide en faveur de l'assistance aux familles des enfants victimes. Thierry Gassisiro est joint par Bernardin Yang.
Nous sommes totalement heureux de l'arrestation de ces deux faux Wazalendo dont le bilan de ces fusillades s'était soldé par la mort d'un élève répondant au nom de Christian Rubeni, deux personnes élèves aussi qui étaient blessées et plusieurs dégâts matériels et pertes et surtout des fournitures scolaires par les élèves qui fouillaient ça et là lorsque ça crépitait dans la cour de leur école. Et nous demandons ici au service judiciaire d'aider les autorités militaires à extirper tous ces faux Ouazalendou qui se cachent dans les vrais et qui ne cessent de ternir l'image de la République démocratique du Congo par des actes et des crimes qu'ils ne cessent de commettre dans les territoires de Nyiragongo. Mais également, nous lançons ici un appel au gouvernement congolais de fournir une assistance digne de son nom aux familles des victimes, surtout à la famille qui a été éprouvée, pouvant permettre à cette famille de couvrir toutes les dépenses relatives au deuil.
Réaction à ces violences au sein des écoles en RDC, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, s'est dit profondément consternée par des faits qu'elle juge odieux qui se sont déroulés au sein des établissements d'enseignement public et privé, notamment au Nord Kivu et à Kinshasa. Dans un communiqué officiel hier vendredi, Raissa Malou souligne que les écoles doivent être des lieux sûrs pour les élèves, les enseignants et le personnel administratif. Nous devons agir avec fermeté et détermination pour garantir la sécurité de nos écoles, dit-elle. Tout en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, la ministre de l'Éducation nationale soutient la poursuite des enquêtes en cours et que les responsabilités soient clairement établies afin de permettre aux instances compétentes de prendre les mesures qui s'imposent. Autre réaction, c'est celle de l'UNICEF. Cette agence du système des Nations Unies exprime sa profonde tristesse et son indignation à la suite de la mort tragique d'un élève et aux blessures infligées à deux autres lors de l'attaque contre l'Institut Mugara dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu. Sentiment exprimé à travers une déclaration de l'UNICEF rendue publique hier. Bernardine Diambo pour les détails.
Le meurtre d'un enfant et les attaques contre les écoles sont des violations graves à l'encontre des enfants en situation de conflit armé, déclare Dr Mariam Silia, représentante adjointe de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Les écoles devraient être des havres de paix et non des champs de bataille. Nous exigeons l'arrêt immédiat de toutes les attaques contre les écoles et la protection de tous les enfants, renchérit-elle. Ce communiqué est motivé par le malheureux incident survenu mercredi 11 septembre dernier dans les territoires de Nyiragongo. Les tirs hasardés d'un individu armé ont occasionné un décès et des blessés parmi les élèves de l'Institut Mugara. Cet acte odieux souligne la nécessité urgente de protéger les enfants et les écoles dans les zones touchées par les conflits, lit-on encore dans la déclaration de l'UNICEF. Le maître d'enfants et d'enseignants ainsi que la destruction des infrastructures éducatives crée une génération d'opportunités perdues, ce qui entrave le développement du pays. Les enfants affectés par les conflits armés sont plus susceptibles d'abandonner l'école, d'être exploités, recrutés dans les groupes armés ou contraints à des mariages précoces, rappelle la représentante adjointe de l'UNICEF en République démocratique du Congo.
Pendant ce temps, en Ituri, certains parents d'élèves à Bunia n'ont toujours pas pu inscrire leurs enfants aux écoles primaires à Noirit et Saint-Luc qui fonctionnent dans le site de déplacé Kigonze. Motif, la capacité d'accueil de ces écoles est déjà saturée. Ils disent avoir constaté qu'une semaine après la rentrée des classes, les enfants qui n'ont pu être inscrits se déversent dans les rues de la ville pour quémander ou vagabonder. Inquiets, les gestionnaires de ces écoles appellent le gouvernement et ses partenaires à leur venir en aide. Ézéchiel Mouzali a nous fait le point.
Des milliers d'enfants en âge scolaire victimes des attaques de groupes armés dans leur village sont privés de leur droit à l'éducation cette année dans les écoles primaires Saint-Luc et Anwarit, dans le site des déplacés de Kigonze à Bunia. Leurs parents n'arrivent pas à trouver de la place dans ces écoles dont les locaux sont insuffisants au regard de l'effectif d'élèves inscrits cette année. Une déception pour cette femme qui s'interroge sur l'essor de ses enfants.
Beaucoup d'enfants n'ont pas trouvé de place. Quand nous posons la question au gestionnaire, il dit que la capacité d'accueil est suffisante. Les voilà assis là-bas.
Certains parents disent avoir donné les noms de leurs enfants pour l'inscription, mais sur les listes définitives des élèves, aucun de ces noms ne figure. D'autres, dont les enfants ont terminé la sixième année primaire, manquent de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école secondaire.
Nos enfants manquent de place à l'école. Le chef de bloc avait pris les noms des enfants. Le directeur nous dit qu'il n'a pas été en possession de ces noms. Nous avons envie de faire scolariser nos enfants, nous ne voulons pas les voir dans les rues. Nous ne savons pas où les emmener.
L'école primaire Saint-Luc éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement, entre autres le manque d'infrastructures, des bancs, pupitres, ainsi que les installations hygiéniques. Bunia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Santé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, annonce que le vaccin MVABN serait le premier vaccin contre le monkeypox ou variole des singes à être ajouté à sa liste de préqualifications. Ceci est contenu dans un communiqué publié hier vendredi. Plus de détails avec Stanislas Diumi.
Dans un communiqué de presse publié ce 13 septembre 2024, l'Organisation mondiale de la santé indique que l'approbation de la présélection devrait faciliter un accès rapide et accru à ces produits vitaux dans les communautés qui en ont un besoin urgent afin de réduire la transmission et d'aider à contenir l'épidémie. L'évaluation de l'OMS en vue de la préqualification est basée sur les informations soumises par le fabricant Bavarian Nordic AC et sur l'examen de l'Agence européenne des médicaments, l'agence de réglementation officielle de ce vaccin, conclut ses communiqués de presse.
Et puis, la RDC a besoin d'une loi spécifique pour répondre aux multiples problèmes des personnes déplacées internes, à l'instar de la déclaration de Kampala sur les déplacés internes. Cette loi devrait avoir un fonds national de réponse aux crises humanitaires. C'est ce qu'a plaidé le coordonnateur national de l'ONG Foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigènes et en détresse. C'était lors du quatrième cycle de l'examen périodique universel auquel il a participé fin août dernier à Genève. Vicar Batundiangi demande aux États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'encourager le gouvernement congolais à mettre en place une politique publique quant à ce. Vicar Batundiangi est au micro de Denise Lukeso.
Nous avons demandé aux États d'encourager le gouvernement congolais à mettre en place une politique publique. Nous avons besoin d'une loi spécifique à l'instar de la déclaration de Kampala sur les personnes déplacées internes. Et là, dans cette loi, on doit avoir un fonds national de réponse aux crises humanitaires. Parce que c'est parmi les problèmes majeurs de notre pays. Nous connaissons des crises de guerre, des conflits armés, des crises humanitaires liées aux catastrophes naturelles et d'autres même liées à des épidémies, aux pandémies. Mais lorsqu'il faut y apporter des réponses, on doit recourir à gauche et à droite. Nous dépendons plus de l'aide extérieure, alors que si nous avons une bonne politique publique, facilement nous pouvons trouver des réponses à nos problèmes.
Direction le Congo central. La population ainsi que les opérateurs économiques invités à faire confiance à l'ONATRA en ce qui concerne l'acheminement de leurs marchandises et autres biens par train de Matadi à Kinshasa. Appel lancé par Jean-Claude Ngoma Moussa, sous-directeur délégué du chemin de fer Matadi. Il indique qu'avant la relance du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, des travaux sérieux de génie civil ont été réalisés sur tous les axes qui posaient problème. Cette relance du trafic ferroviaire va répondre, selon lui, à réduire l'affluence des véhicules poids lourds sur la route nationale numéro 1 et réduire ainsi les accidents de circulation ainsi que les embouteillages. Le sous-directeur délégué du chemin de fer, Jean-Claude Ngoma Moussa, explique dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
C'est avec un réel plaisir que nous annonçons la reprise du trafic ferroviaire entre Matadi et Kinshasa. La voie ferrée avait subi d'énormes dégâts dans le parcours Kimwenza-Kazangulu suite à des pluies diluviennes et grâce aux efforts menés par l'actuelle direction générale de l'ONATRA, des grands travaux de génie civil ont été exécutés, bien entendu, avec l'accompagnement gouvernement de la République. Les impacts positifs de cette relance, c'est le désengorgement de la route, car le chemin de fer est conçu pour le transport des masses avec un tarif très attractif. Aujourd'hui, nous assistons à un spectacle très désolant sur la nationale numéro 1, des embouteillages, des bouchons, et l'entrée dans la ville de Matadi est devenue un véritable parcours des combattants. Mais avec le chemin de fer, je pense que nous pouvons assurer l'évacuation des marchandises en provenance du port de Matadi vers Kinshasa. À la population du Congo central, nous lançons un message d'espoir. Faites confiance à l'ONATRA et surtout aux opérateurs économiques. Nous sommes prêts pour prendre vos marchandises et les acheminer en toute sécurité à Kinshasa parce que le phénomène coupeur de route, on en trouve au niveau des chemins de fer.
Actualité internationale. L'Allemagne et le Kenya ont signé vendredi un accord décisif qui permettra à 250 000 travailleurs kenyans qualifiés et semi-qualifiés de s'installer en Allemagne. Ce partenariat stratégique vise à pallier la pénurie croissante de main-d'œuvre en Allemagne tout en offrant des nouvelles opportunités aux jeunes kenyans. La signature de cet accord, qui a eu lieu à la chancellerie de Berlin, représente une avancée majeure dans les relations entre les deux nations. Ce contrat marque une étape clé dans la résolution des défis du marché du travail en Allemagne qui peine à recruter du personnel qualifié malgré une population vieillissante.
L'invité.
Il s'agit de Rex Ntoma, expert en démobilisation à la Coordination nationale du PDDRCS, programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Il vient d'effectuer une mission à Bounia durant laquelle il a pris part à l'atelier sur le recrutement et l'utilisation des enfants par les groupes armés. Il nous parle également des défis à relever pour matérialiser le PDDRCS. Rex Ntoma est avec Ezekiel Mousalia.
Monsieur Rex Ntoma, bonjour. Vous venez de prendre part à un atelier interprovincial sur la problématique du recrutement et l'utilisation des enfants par des forces et groupes armés. Quelle est la situation du phénomène enfants-soldats dans les 5 provinces qui ont pris part à cet atelier?
Merci beaucoup pour la parole. Comme vous le savez, que l'utilisation, le recrutement des enfants constitue un crime et que c'est un fléau qu'il va falloir combattre à tout prix. Et que l'atelier de ce jour consistait à faire une analyse contextuelle sur le phénomène de recrutement et utilisation des enfants dans les 5 provinces, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema ainsi que le Tanganyika. Le constat est encore alarmant, quoiqu'il y a des avancées très significatives et qu'à ce jour, il existe encore des enfants qui sont encore entre les mains. L'estimation va jusqu'à 10 000 enfants qui seraient encore au niveau, n'est-ce pas, de groupes armés. C'est ce chiffre-là qui est alarmant et qui nous pousse à réfléchir comment faire, quelles sont les pistes de solutions à mettre en place pour pouvoir solliciter et demander, n'est-ce pas, aux groupes armés de pouvoir libérer les enfants. L'avenir de notre pays est entre les mains de notre jeunesse et, et de nos enfants. Et donc, les enfants sont victimes, n'est-ce pas, de cette situation. Et il va falloir assurer que non, très vite, les groupes armés puissent libérer, n'est-ce pas, les enfants, afin que ces enfants-là puissent suivre, n'est-ce pas, un cursus normal pour l'avenir de notre pays.
À quel niveau se situe le problème? Cela fait des années que l'on parle de ce problème, que des structures sont mises en place pour y mettre fin. Mais le recrutement des enfants par des groupes armés continue. Selon vous, pourquoi?
Effectivement, il y a plusieurs démarches au niveau national, n'est-ce pas, qui sont mises en place, même au niveau, n'est-ce pas, politique, et tout est mis en œuvre. Ici, au niveau des provinces, c'est là où se passe la mise en œuvre. Et donc, parmi les pistes de solutions, il va falloir sensibiliser parce que les gens sont ignorants. Les gens sont ignorants que utiliser les enfants, ça constitue un crime. Et donc, il va falloir sensibiliser les groupes armés, les responsables des groupes armés de pouvoir libérer les enfants. Et après avoir libéré les enfants, il y a le programme de désarmement qui va les accueillir ensemble avec leurs partenaires de mise en œuvre pour pouvoir assurer la réunification familiale de ces enfants, mais également proposer, n'est-ce pas, des solutions en termes de réinsertion.
Que faudrait-il faire pour y mettre fin, sachant que le PDDRCS tarde à démarrer effectivement?
Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, il y a vraiment une forme, n'est-ce pas, de confiance qui renaît. Au moment où nous parlons avec vous, en Ituri, il y a, n'est-ce pas, les opérations pour les aider adultes au niveau des cités de Django, où les équipes nationales avec les équipes provinciales se sont mises ensemble pour parfaire les activités de démobilisation et désarmement.
La MONUSCO étant un partenaire clé dans le processus de lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants par des groupes armés, comment voyez-vous la suite de vos efforts dans ce contexte de désengagement de la mission onusienne?
Le gouvernement de la République a mis en place un cadre, n'est-ce pas, de transition, une feuille de route qui est là pour assurer évidemment la prise en charge après le départ de la MONUSCO. Ce qui est vrai, que la MONUSCO, étant donné que nous, qu'il est encore là, et surtout pour les cas de l'Ituri, il compte beaucoup pour nous en tant qu'un partenaire de taille qui nous vient, n'est-ce pas, en appui, et que il y a des séances qui en sont prévues parce qu'on ne doit pas aller en besogne. Il y a, n'est-ce pas, tout un mécanisme qui est mis en place pour le transfert des compétences, le transfert, n'est-ce pas, à tous les échelles, à tous les niveaux, pour pouvoir permettre à ce que non, la transition s'efface de manière civilisée et paisible et non en précipitation.
Monsieur Eric Saint-Thomas, merci.
Merci.
Voilà, notre invité et expert en démobilisation à la coordination nationale du PDDRCS, il répondait aux questions de Ezekiel Mouzalia. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.